Bonjour à tous et à toutes. Notre valeureuse stagiaire Camille Kaufmann vient d'obtenir son permis de conduire. Bravo Camille. Je la félicite mais je ne la remercie pas parce que sa réussite me plonge dans mes souvenirs et je réalise soudain que je ne sais plus combien de fois j'ai raté le permis. Je me souviens l'avoir raté, je me souviens de la fois où c'était un scandale parce que je n'allais pas vraiment écraser ce piéton, j'aurais bien sûr freiné si l'examinateur ne l'avait pas fait avant moi. Mais combien ai-je essuyé d'échecs précisément? Je ne sais plus et ça me fait un peu peur. C'est une bonne chose, me direz-vous, il faut se concentrer sur le positif, se souvenir de la réussite, car oui, j'ai fini par décrocher le permis, plutôt que des ratages, c'est assez sain. Mais en est-on si sûr? Il semble que le vent soit en train de tourner en la matière. J'ai l'impression que l'échec est dans l'air du temps, ou plutôt on commence à réaliser que l'échec a des vertus. Il faut dire que nous venons de très loin en la matière, alors partons du principe aujourd'hui que l'échec est chic et débattons de la meilleure manière de tout foirer. Quelle est la plus belle façon d'échouer? C'est la question qu'on se met sous la dent jusqu'à 13h.
Le débat du midi. Dorothée Barba sur France Inter.
Avec des invités comme tous les jours triés sur le volet, nous avons choisi ce qui se fait de mieux en matière d'échecs. Je plaisante évidemment. Bonjour Albert Mokeber.
Bonjour.
Bienvenue, merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes psychologue, chercheur en neurosciences, auteur aux éditions Alary de « Votre cerveau vous joue des tours », également fondateur de Chiasma, un collectif de neuroscientifiques qui s'intéresse à la façon dont nos opinions se forment. Alors est-ce que c'est grave, docteur, d'avoir oublié combien de fois j'ai raté mon permis ?
Pas du tout.
C'est normal ?
Tant mieux si vous l'avez eu à la fin.
Comment vous l'expliquez ?
C'est le résultat qui va masquer les échecs. Si vous ne l'aviez pas eu, là vous auriez eu un peu plus de mal à oublier le nombre d'échecs.
Mais si ça ne m'avait pas semblé très grave de le rater à l'époque, je m'en souviendrais, vous pensez ?
Probablement parce que le permis est quelque chose qui s'inscrit dans la société comme un grand événement. Vous auriez eu un peu plus de mal à l'oublier, je pense.
J'ai le plaisir d'accueillir également une sportive professionnelle. Bonjour Yannick Souvré.
Bonjour, une ancienne sportive.
Basketteuse, ancienne capitaine de l'équipe de France. Vous avez passé 10 ans, je crois, au sein de l'équipe de Bourges. Changement de ballon, puisque vous êtes aujourd'hui directrice de la Ligue nationale de volley. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je dois préciser qu'on a essuyé quelques refus. Les sportifs et les sportives ne veulent pas venir parler d'échecs au micro de France Inter. Est-ce que ça vous étonne ?
En activité, je peux plus facilement le comprendre. Moi, c'est vrai que c'est loin derrière moi, donc j'ai eu le temps de le digérer. Et puis, c'est vrai qu'en général, quand on me tend un micro, j'essaie toujours de répondre. On parle de peu de médiatisation du sport féminin, donc quand on me le tend, moi, j'y réponds.
En activité, vous seriez venu parler de l'échec ?
Je pense, pour cette raison-là, c'est que effectivement, il y a 15 ans, le sport féminin était moins médiatique que maintenant, donc on peut pas se plaindre qu'il l'est pas et ne pas répondre aux médias.
Comment se retrouve-t-on alors qu'on est basketteuse à la tête de la Ligue de volley ?
Déjà, je joue pas au volley, j'administre, je gère, j'ai une équipe avec moi pour organiser les compétitions de volley professionnel et je suis la seule ligue mixte puisque j'ai deux divisions garçons et une division fille et j'en suis assez fière.
On va parler aussi bien sûr de votre carrière mais aussi des basketteuses de l'actuelle équipe de France puisqu'elles ont perdu très récemment en Serbie et vous avez commenté l'Euro de basket sur la chaîne W9 et donc vous avez vécu ça de très près. Mon troisième invité, s'il vous plaît, est l'un des créateurs de la Fédération française de la loose. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Alors je vous appelle Antoine tout court parce que vous tenez à rester anonyme, je crois.
Parce que de toute façon, il y a 4 Antoine, donc ça aurait été compliqué.
4 Antoine, à la tête de la fédération.
4 sur les 6, est 6 et donc comme ça, ça gardera le mystère de qui est venu.
Mais c'est parce que vous craignez des représailles en réalité.
Oh, il y en a qui connaissent mon nom de famille, je pense.
Alors c'est une fédération virtuelle, la Fédération française de la loose date de 2015. Elle vit sur les réseaux sociaux, vous avez presque 300 000 abonnés sur Facebook, pas loin de 90 000 sur Twitter, j'ai bon ?
C'est ça, et en plus on a créé un site internet du coup pour pouvoir raconter les grandes défaites un peu plus en exploration.
Alors le succès de la Fédération française de la loose est une preuve que l'échec passionne le grand public ?
Mais c'est une preuve aussi que les Français aiment, nous c'est notre conviction, les Français aiment les grands perdants. Poulidor est dans la mémoire collective, on a Laurent Fignon qui on a les grandes défaites auxquelles on parle plus que les grandes victoires. Bon, peut-être pas toutes les grandes victoires, mais Séville 82 ou la Bulgarie 93, c'est des choses qui nous ont pas marqué directement parce qu'on soit on n'était pas nés, soit on n'était pas grand-chose encore. Mais nos parents, ou du moins les oncles, en reparlent encore avec une grande souffrance, mais... Il y a une grande dramaturgie qui a fait que c'est dans l'historique et dans la mémoire collective.
Alors, la Fédération française de la loose, c'est l'occasion de souligner que le mot loose en anglais ne prend qu'un seul O. On a toujours envie d'en mettre deux.
C'est un grand combat.
C'est un grand combat. C'est pas vraiment un échec, mais c'est une erreur de mettre deux O au mot loose. Vous connaissez bien sûr la maxime de Snoopy, Antoine. Ce grand philosophe Snoopy, gagner ou perdre, c'est pas grave, sauf quand on perd. Charles Pélavon est à la prise de son aujourd'hui. L'émission est préparée par Caroline Pomès, réalisée par Lola Costantini. Programmation musicale Jean-Baptiste Audibert. Une bien jolie bande de gagnants. Voici Clara Luciani sur France Inter.
Je ne sais pas si je suis encore vivante. Sinon, quelle est cette douleur qui me hante? Mon corps se balance au-dessus d'une mer immense, mais je m'accroche à vous. Il ne me reste plus que quelques souvenirs d'enfance qui déjà deviennent flous. Je n'ai ni chaud ni froid. Que j'assassine. Notre monde était rien qu'un léger malentendu qu'on a pris au sérieux. Fallait-il en arriver là? J'ai toujours eu pour nous des projets plus heureux.
Quelle est la plus belle façon d'échouer? C'est notre question du jour dans le débat de midi avec une ancienne sportive, la basketteuse Yannick Souvré, 251 sélections en équipe de France, avec le psychologue et chercheur en neurosciences Albert Moukébert et avec l'un des créateurs de la Fédération française de la loose qu'on appelle Antoine parce qu'il est là incognito aujourd'hui. Je vous conseille une série à voir sur Netflix, série passionnante et très émouvante aussi, série américaine qui ausculte ce que représente l'échec pour les sportifs. Elle s'appelle Loser, tout simplement, et raconte notamment l'histoire de Surya Bonaly. La patineuse française vit désormais aux États-Unis et elle se souvient des JO de 1998.
Ces Jeux ont été pour moi un véritable cauchemar. Après toutes ces heures, toutes ces journées, toutes ces années passées sur la glace, l'échec est cuisant.
Surya Bonaly.
La douleur était insupportable. Je savais au fond de moi que même si l'adrénaline peut faire des miracles, je n'arriverais pas à faire des triples sauts parce que j'avais trop mal. Mais j'ai quand même réussi à y aller en me disant que j'allais faire de mon mieux et qui sait, que sera, sera, comme on dit. Bon, ok, je fais un salto arrière. Le public était hystérique. Les gens se sont levés pour m'applaudir avant même la fin de mon programme. Tout le monde était ravi, sauf les juges.
Elle a fait un pied de nez aux juges, mais en même temps, elle a fait une prestation inoubliable devant le public. Elle s'est retrouvée loin dans le classement, mais j'ai oublié les noms de la plupart des patineuses qui étaient devant elle.
Le salto arrière était interdit, elle l'a fait quand même. Surya Bonaly n'a jamais gagné de médaille olympique, mais elle a durablement marqué l'histoire de son sport. Est-ce la preuve, Yannick Souvré, qu'une défaite avec panache est parfois plus belle qu'une victoire ?
Oh non,
non. Ça c'est la sportive qui parle.
Ah non, pas du tout. Non, alors ça j'y crois pas du tout. Et puis on perd pas pour perdre. Malheureusement, ça nous tombe dessus. Je crois pas que. Je pense que la défaite peut être salutaire. Elle peut apporter énormément de choses. Il faut de toute façon la positiver pour pouvoir avancer. Il faut la reconnaître, l'accepter, la digérer. Mais alors par contre, perdre et trouver ça chouette, non. Alors là, aucun moment.
Alors ça tombe bien parce que c'est un débat et je crois que la Fédération de la Loose va pas être d'accord avec vous là-dessus.
Ouais. Nous, après, on est des supporters, donc si le Français gagne, on est content à titre personnel, et s'il perd, on est content à titre Fédération de la Loose. C'est un peu ça, on est assez opportuniste dans le fond, parce qu'on sera heureux quoi qu'il se passe devant notre télé.
Elle était belle, la défaite de Surya Bonaly à l'époque.
Alors, elle était avec panache. Nous, c'est celle qu'on préfère à la limite, c'est celle vraiment avec panache, avec ce petit côté. On a perdu, mais on prend souvent un peu l'équivalent de Cyrano Bergerac, qui au final fait toute une pièce à tenter de conquérir sa belle pour échouer, mais avec panache. Et c'est pour ça qu'on l'aime. Au final, c'est parce que il y a ce côté, ce côté panache.
Il y a quelque chose de très français là-dedans, selon vous ?
Alors, je pense, parce que on en parlait, mais tout ce qui est Poulidor, tout ce qui est Laurent Fignon, tout ce qui est ces gens qui ont échoué de peu ou qui ont vécu avec ce costume d'éternel perdant. Il est rentré un peu dans notre ADN et on les aime plus que les gagnants. Je veux dire, on aimait plus Poulidor qu'on a aimé Anquetil. On a aimé Fignon à partir du moment où il a perdu parce qu'il a gagné deux Tours de France avant, mais en fait, pour
dans
avoir échangé avec
général.
Des, pas dans l'indifférence, mais il était pas aimé. Il a été aimé qu'à partir de ce moment où il a été plus ou moins humain sur les champs à perdre pour 8 secondes.
Pour en revenir à Surya Bonaly, on se souvient qu'en 94, elle refuse de monter sur la deuxième marche du podium parce qu'elle considère qu'on lui a volé sa médaille d'or. Vous en souvenez de cet épisode, Yannick Souvré ?
Moi, très très bien, oui, j'étais devant ma télé.
Elle est en larmes, évidemment.
Oui, puis il y avait une forme d'injustice bien au-delà du simple patinage. Donc
beaucoup de racisme, en l'occurrence.
C'était beaucoup plus gênant. Là, la défaite sportive n'a plus lieu d'être. Ce qu'on en retient, c'est ça, c'est qu'effectivement, c'était quand même une des premières noires dans le monde du patinage artistique. Elle était hors norme, elle avait un physique phénoménal et elle détonnait parce qu'elle était capable de faire ce que d'autres ne faisaient pas. Elle était peut-être soi-disant moins artiste, moins technique, enfin, c'est pas technique, mais moins esthétique, en tout cas avec les critères de l'époque. Mais moi je m'en souviens très très bien.
Alors je me tourne vers le psychologue, chercheur en neurosciences Albert Moukébert. Le cerveau des sportifs vous intéresse-t-il plus que les autres ?
Sur l'échec, par exemple, et quand on parle en psychologie d'échec, on parle beaucoup aussi de résilience, notre capacité à rebondir d'échec. Effectivement, les sportifs sont parmi les premières populations qui ont été étudiées sur ce sujet. D'ailleurs, un des livres référence sur la résilience est basé sur les joueurs de tennis, s'appelle le Inner Game of Tennis, en anglais. Et c'est vraiment sur l'échec. Donc les sportifs, effectivement, c'est une population très intéressante.
Donc on reconnaît un grand sportif à sa capacité à se remettre assez vite d'un échec ?
À se remettre assez vite d'un échec, à se remettre en compétition pendant que c'est en train de dérailler, notamment encore une fois dans les jeux individuels comme le tennis, comme le golf, etc., qui sont capables de se recoacher quelque part mentalement sur qu'est-ce qui est en train de se passer, de faire ces ajustements sur le tri directement en live. Et d'ailleurs, c'est un changement qu'on voit opérer au niveau du sport français, c'est-à-dire il y a de plus en plus d'équipes, notamment ça avait commencé, je pense, avec la Ligue 1 de foot il y a quelques années, qui embauchent des psychologues du sport, ça existe. Qui apprennent aux sportifs comment gérer ces moments, comment gérer les échecs, comment gérer les pertes de performance.
On parle parfois de la peur de gagner, peut-être parfois pour s'en moquer d'ailleurs, mais c'est vraiment quelque chose qui se passe dans le cerveau du joueur.
Bien sûr, on en parlait tout à l'heure avec la tenniswoman française qui avait gagné le premier set 6-0, puis 5-0, et puis qui perd le match.
Ouais, c'était un événement assez récent, je me trompe peut-être, mais je crois que c'est Fiona Ferro qui menait 6-0, 5-0 et qui a perdu son match.
Qu'est-ce qui se passe là?
Clairement, ici, c'est pas des problèmes techniques. C'est pas soudainement elle oublie comment jouer
au
tennis.
Elle a été impressionnée
par clairement,
son succès.
Un truc psychologique. Je ne suis pas dans sa tête, mais clairement, l'obstacle ne peut pas être un obstacle sportif. Ça va au-delà de là, parce qu'elle a gagné quand même 11 jeux d'affilée. Et puis elle part le match.
Elle est là précisément, Antoine, la magie du sport. C'est ça qui passionne les foules finalement.
Bah, au final, s'il y avait que des vainqueurs et si le meilleur gagnait tout le temps, on s'ennuierait devant la télé. Enfin, ce serait. C'est aussi la beauté du sport. Elle est dans les grands exploits, mais aussi elle est entre guillemets dans les grandes défaites, dans ces moments de dramaturgie. Parce que derrière, alors on en parlait effectivement du sport personnel. On avait aussi Paul-Henri Mathieu qui avait à la Coupe Davis qui menait 2-0 face à Yuzny et qui craque, mais on voit dans ses yeux, le regard change, il y a tout qui change, il y a toute une pression qu'il n'est pas capable de prendre et qui perd alors qu'il était au-dessus au final. Mais on parlait du sport français, nous, du moins personnellement, j'ai une conviction, c'est que l'aspect mental, c'est quelque chose de très récent et c'est encore quelque chose de très tabou.
C'est-à-dire
Il n'y a pas très longtemps, on avait plusieurs personnes qui nous ont dit la même chose. En fait, Teddy Riner, donc qui est lui un peu l'antéchrist, on va dire, de la FFL.
De la Fédération Française, ouais. De la Loose.
De la Loose. avait dit en fait tout simplement, ouais, non, mais moi, puis j'ai une coach mentale. Et en fait, ça a chamboulé pas mal de sportifs qui ont dit, eh ben, lui, il gagne, mais en plus, il a une coach mentale. Bah, alors que le mental, c'est quelque chose de vu comme très... Enfin, je veux dire, avoir un coach mental, c'est vu comme une faiblesse. On a eu pas très longtemps l'interview de Corentin Moutet qui disait un journaliste lui posait une question en disant voilà, vous avez un coach mental depuis pas longtemps. Il a fait, moi, je ne réponds pas à cette question.
C'est c'était une honte.
C'est de l'ordre de l'intime.
De l'ordre de l'intime.
Voilà. Je crois que les mots, c'est ça. Et ça m'a marqué parce que je me suis dit, le physique, c'est tout ce qu'il y a dans le sport français. Enfin, on voit effectivement. Et le mental, finalement, c'est quelque chose d'encore assez tabou.
Yannick Souvré, vous aviez une coach mentale quand vous étiez capitaine de l'équipe de France de basketball?
Non, pas du tout. C'est vrai qu'à l'époque, il y a une quinzaine d'années déjà maintenant, puisque j'ai arrêté de jouer en 2003, ça ne se faisait pas. C'est vrai qu'on le voit dans les sports individuels déjà depuis un certain nombre d'années, mais on le voit dans les sports collectifs.
Parce que le mental est censé être une affaire entre soi et soi, ne pas concerner l'équipe?
Non, je pense que, en tout cas, le préparateur mental, puisque c'est comme ça qu'il est appelé, dans le sport collectif, il est là pour que pour arriver à faire qu'elles sont capables puisque c'est des sportifs de sport co à travailler ensemble. Moi, à l'époque, j'ai jamais eu le besoin d'avoir quelqu'un pour me motiver, mais c'est pas spécialement pour se motiver, c'est plutôt pour orienter le mental et peut-être effectivement la résilience. Moi, on me dit, oui, alors comment vous avez vécu les défaites? Je dis toujours, moi j'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière parce que j'ai pas beaucoup perdu. mais je le dis pas avec je le dis avec beaucoup de la chance aussi.
Mais ce sont les faits.
J'ai travaillé dur, mais
peut-être rappeler
des joueuses qui ont joué autant que moi, qui se sont entraînés autant que moi, il y en a plein. Qui ont gagné autant que moi, il y en a peu.
251 sélections en équipe de France, un titre de championne d'Europe, 3 Euroleague avec Bourges, et c'est l'un des plus beaux palmarès du basket français, Yannick Souvré.
Oui, 8 fois championne de France, ça veut dire que j'ai pratiquement une année sur 3 gagné un titre. Et ben, c'est quand même le but du sportif, c'est de gagner ses médailles, ses trophées. Donc peut-être que j'en parlerai moins facilement si j'avais perdu plus que je n'ai gagné. Mais au-delà de ça, je crois que ça forge le caractère. Et pour moi, le terrain de sport, c'est le terrain de la vie. Quand on est capable de savoir rebondir, on dit toujours, vous savez, vous tombez de cheval, il faut vite remonter dessus. Quelque part, le sportif, il pour pouvoir gagner, il faut qu'il perde aussi, et il faut qu'il sache pourquoi il a perdu. Mes plus beaux titres, c'est 2001, championne de France, championne d'Europe en France avec l'équipe de France, devant notre public, ma famille. Faut savoir qu'en 99, on a perdu en finale, et je suis sûre qu'on a gagné en 2001 parce qu'on a été, on a perdu et on a su pourquoi on avait perdu en 99. Donc quelque part, on a besoin de gens, des préparateurs mentaux certainement, mais être capable de savoir pourquoi on a perdu et que c'est pas la faute ni de l'arbitre ni de l'adversaire, encore moins de sa coéquipière, c'est aussi vital pour pouvoir gagner.
Savoir pourquoi on a perdu, voilà qui intéresse le psychologue, j'imagine, Albert Moukébert.
En fait, même avant ça, c'est pour rebondir sur les coachs et les psychologues du sport, c'est que la résilience, ça s'apprend. Et ça, pendant longtemps en France, c'était un peu tabou. Alors que, par exemple, la première ligue de foot en Angleterre, depuis longtemps, ils bossent avec des coachs du sport.
C'est une forme d'arrogance, non, de pas vouloir reconnaître qu'on a un coach mental.
Je ne sais pas si c'est de l'arrogance ou aussi un manque d'information. Je pense. Je ne sais pas si ça les gens savaient que c'est vraiment un apprentissage. C'est-à-dire, on sait qu'est-ce qui marche moins bien, quelles sont les choses à faire, les choses à pas faire, et ça s'apprend. C'est pas quelque chose qu'on est avec. Et je pense que le sport en France, pendant longtemps, on laissait ça un peu au hasard. On peut tomber sur des personnes qui ont une force mentale par le hasard des choses, et on peut tomber sur des sportifs qui n'ont pas une force mentale.
Mais ça s'entraîne, la force mentale.
Et ça s'entraîne,
sauf
qu'on ne s'entraînait pas. Donc on laissait faire ça un peu le hasard. Et c'est pour ça que les tennismen français, pendant longtemps, on disait ils vont gagner au prochain Grand Chelem, et ça n'arrivait pas. Et pour plein d'autres sports, en Formule 1, il y a eu une période aussi. Et maintenant, de plus en plus de gens sont en train de remarquer qu'effectivement, si Rinner a un coach mental, il gagne, peut-être qu'on devrait faire la même chose. Et il y a de plus en plus d'équipes qui sont en train d'embaucher des personnes qui apprennent ces techniques, ces méthodes pour gérer.
Vous avez un exemple de technique très concrète pour apprendre la résilience?
Par exemple, de mettre l'accent sur l'effort et non sur le résultat. Donc, est-ce que je suis en train de m'améliorer point par point en me comparant à moi-même au lieu de me comparer à un résultat abstrait?
Mesurer le chemin parcouru, donc.
Exactement. Se focaliser chaque point par point, mais pas juste le dire. Il y a des techniques, savoir où est le corps. Est-ce que mon cœur s'accélère trop, est-ce que j'ai besoin de faire, et encore une fois, surtout dans les jeux, dans les sports individuels comme le tennis, comme le golf, comment est-ce que je peux contrôler ma cohérence cardiaque, ma tension musculaire entre les jeux, est-ce que je suis tendu, est-ce que ma mâchoire est bloquée, détendre la mâchoire, des choses vraiment très pratico-pratiques, qui sont presque biologiques. Qu'on peut apprendre à gérer pour ne pas être tout le temps dans une sorte de tension permanente où effectivement notre performance va prendre un coup.
Alors la conséquence au sein des sportifs français de l'arrivée de ces préparateurs mentaux, ça va être qu'on va se mettre à gagner Roland-Garros, Antoine, et la Fédération française de la loose va être très déçue.
Je pense qu'il faut encore quelques années, parce qu'il y a... Alors encore une fois, même le tennis, ce qui est terrible, c'est qu'au final, la génération là qui est passée, c'est peut-être la meilleure génération française qui ait jamais existé.
Sauf Mais alors, que, qu'est-ce qui se passe ?
Sauf qu'il y en avait quatre qui étaient bien meilleurs que les autres et qui ont tout raflé. Donc, et c'est pas tant les tennismans, à la limite, dont on rigole, c'est plus cette embellie avant les grands chelems où on y croit, ou l'embellie avant alors je prends au hasard, mais un Gas Canada, on se dit, peut-être qu'il y a des choses à faire. C'est toute cette embellie qui nous crée un écosystème où à la fin, il y a une déception. Il y a une déception alors qu'au début,
ça c'est intéressant,
début, on attendait
rien. Déception dépend de la mayonnaise qu'on a fait monter avant ou pas. Ça c'est une responsabilité des médias, clairement. Laisser croire qu'on a peut-être une chance, que Gasquet a peut-être une chance face à Nadal.
Moi je prends toujours la phrase de Dewey dans Malcolm, ce qui est d'ailleurs une famille de losers, ça qui est drôle, mais il dit toujours, et je crois que c'est quelque chose comme ça, mais je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que pas mal de sports où c'est pareil, effectivement, il y a toute une mayonnaise, il y a toute une chose qui se crée, après c'est normal, c'est Roland-Garros, mais pour qu'au final on se dise, tiens, en fait, il peut le faire.
Alors on comprend qu'il y a beaucoup d'humour et de dérision derrière compte, la Fédération française de la loose. Est-ce que parfois les sportifs le prennent mal ?
Parfois ils le prennent mal, surtout dans les sports individuels, enfin surtout dans les sports où, comme le tennis, où on a le temps de se parler. Enfin, moi, pour avoir fait du tennis, moi, je suis très mauvais mentalement. On se parle, on se dit, moi, l'échauffement, j'envoie tout comme il faut. Puis dès que j'arrive le match, le bras se crispe et je suis mauvais, donc ça m'énerve. Donc c'est un cercle vicieux. Et c'est des sports, effectivement, où on peut, en plus, ils jouent toute l'année. Il y a des sports, effectivement, où on a besoin d'être dans notre bulle. Je prends par exemple le 100 mètres. Ils ont besoin d'être dans la bulle une journée dans l'année. Le reste du temps, c'est de l'entraînement où ils peuvent un petit peu plus se décompresser. Et le tennis, c'est tout le temps. Le golf, c'est pareil d'ailleurs. Et du coup, c'est des sports effectivement où les gens sont, je pense, plus susceptibles, parce qu'ils font même plus la dissociation, je veux dire, entre l'athlète et la personne. C'est-à-dire que quand on va rigoler d'un athlète, lui va le prendre très personnellement. Alors que quand on va rigoler, je sais pas, d'une équipe de foot ou d'une équipe de volley ou d'une équipe de basket, ils peuvent, disons, prendre ça de manière plus globale.
Vous êtes pas mal moqué, par exemple, des joueuses de l'équipe de France de basket.
Absolument.
Qui a perdu récemment l'Euro face à l'Espagne. Quatrième défaite d'affilée en finale de l'Euro, Yannick Souvré. Est-ce que vous l'auriez mal pris, vous, à l'époque, si la Fédération française de la loose avait existé pendant que vous étiez capitaine de l'équipe de France ?
Je sais pas, certainement. Je pense que quand on, c'est toujours drôle. Vous savez, c'est un peu comme quand quelqu'un tombe dans la rue. Des fois, ça fait rire. Ah, oui. Sauf quand c'est vous, quoi. Voilà. Et c'est ce qu'on disait juste avant de rentrer dans l'émission. C'est un peu ça. Je dis pas que ça m'aurait pas touché. Ce que j'aurais certainement répondu, c'est oui, bien sûr. Mais enfin, c'est quand même 4 fois une médaille d'argent. Et faut jamais l'oublier. Jamais l'oublier. C'est-à-dire que on peut perdre, mais on peut aussi se retourner sur soi parce que mentalement, vous en parlerez mieux que moi, mais mentalement, arriver à garder aussi une stabilité émotionnelle est extrêmement importante dans le résultat final. Et vous ne pouvez pas, quand vous avez gagné, penser que vous êtes le meilleur du monde, mais quand vous avez perdu, vous n'êtes pas non plus le plus nul. Donc, c'est là-dessus que la Fédé de la Loose, que je trouve très drôle, effectivement, et je suis abonnée depuis très longtemps, fait rire beaucoup, beaucoup de gens, sauf quand c'est les personnes concernées, mais qu'il faut prendre du recul par rapport à ça. Et pourquoi les sportco le prennent mieux? Parce que quand vous gagnez en équipe, mais quand vous perdez en équipe aussi. Et tout le monde n'est pas apte à faire du sport co, tout le monde n'est pas apte à faire du sport individuel. Et c'est aussi tout un travail à faire pour arriver à remobiliser tout le monde quand vous avez perdu. Et puis aussi à rappeler que, par exemple, en basket, quand vous marquez 20 points, ben non, vous n'avez pas gagné tout seul parce que la fille qui est à côté de vous, si elle a bien défendu ou elle vous a bien passé la balle, elle vous a aussi permis de gagner en équipe. Donc, je pense que c'est assez important.
Le fonctionnement cérébral est-il différent selon qu'on joue en collectif ou en individuel, Albert Mokeber?
Je ne sais pas si pour le fonctionnement cérébral, mais en tout cas la psychologie et comment on appréhende les choses est très différente. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des mécanismes de diffusion de la responsabilité. Je peux, quand je gagne, dire c'est grâce à moi et quand je perds, c'est grâce aux autres.
C'est l'inverse.
Ou l'inverse, selon si on a confiance en soi ou pas. Mmh. Parce que ces choses sont très modulées aussi par l'individu. Et d'ailleurs, il y a des joueurs phares que personne ne veut jouer avec eux parce que quand ils gagnent, c'est grâce à eux et quand ils perdent.
Un exemple?
C'est les autres. Neymar.
Un vrai joueur qui a le sens du collectif.
Ouais, ça, exactement.
Bon, dites-moi, Antoine, est-ce que la Fédération française de la Loose a choisi un hymne déjà?
Oui, il y a pas mal. Il y avait une vieille chanson de hip-hop qui s'appelait Juste un loser, ou sinon il y a Beck, Loser.
Ah bah, c'est exactement ce qu'on a choisi. Voici Beck sur France Inter. Loser, avant de reprendre ce débat sur les vertus de l'échec. Vous êtes sur France Inter.
Splinters.
Yo, bring it on down.
Nous chantons les louanges de l'échec aujourd'hui. D'ailleurs, je dois signaler qu'on a commis une erreur en parlant tennis tout à l'heure. Cette joueuse qui menait 6-0, 5-0, mais a finalement perdu le match, c'était Jessica Ponchet et pas Fiona Ferro, pardon à elle, hein, sur le tournoi de Sunderland. Ponchet dominait largement le match et s'est finalement effondrée face à la Britannique Tara Moore. Magnifique preuve de la force du mental. Petite citation, tenez, de Samuel Beckett. Tu as essayé, tu as échoué, eh bien, essaie encore, échoue mieux.
Le débat de midi. Dorothée Barba sur France Inter.
Il fallait évidemment parler de football, l'échec des Françaises au mondial féminin. On est en ligne avec une ancienne joueuse. Bonjour Sandrine Dussan.
Bonjour.
Ancienne internationale, vous étiez défenseuse de l'équipe de France, vous avez joué à Lyon notamment, vous avez mis fin à votre carrière en 2017. Alors ce mondial, très décevant pour l'équipe de France évidemment, cette défaite en quart de finale.
Oui, forcément décevant parce que c'est vrai qu'on s'attendait à autre chose. En tout cas, les objectifs qui avaient été fixés, c'était au moins une demi-finale. Malheureusement, cet objectif n'a pas été atteint, donc il y a forcément de la déception de ce côté-là, oui.
Est-ce que ça rassure d'avoir été battue par celles qui finalement ont décroché la Coupe du Monde ?
On peut le voir d'une façon positive, oui, ça peut être un moyen de relativiser aussi. C'est vrai que voilà, les Américaines, c'est les numéro un mondiales. Elles ont été championnes du monde déjà par le passé, et puis là qu'elles remportent à nouveau cette édition, oui, on peut y voir un côté rassurant en se disant on n'a pas perdu non plus contre n'importe qui.
J'ai l'impression qu'avec ce mondial en France, on a perdu, mais on a gagné parce que le foot féminin est devenu du foot tout court pour le grand public. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Sandrine Dussan?
Ah oui, absolument. Je pense que au niveau sportif, effectivement, c'est une déception et on s'attendait à mieux. Par contre, au regard de ce qui s'est passé pendant cette Coupe du Monde, comment elle a été suivie, que ce soit au niveau des médias, mais aussi des supporters et au niveau des audiences télé, c'est juste exceptionnel. Donc évidemment, on a fait un gros bond en avant, je pense, du côté de la pratique du football féminin et de sa visibilité.
C'est pas un peu rageant pour une footballeuse qui a arrêté sa carrière juste avant le mondial ? Comme vous.
Oui, oui et non, parce que c'est vrai que je suis contente de voir comment la discipline évolue. Le regard que les gens ont maintenant sur le football féminin, c'est quelque chose de très positif. Donc, je peux pas dire que ce soit rageant. Il peut y avoir un petit côté parfois un peu frustrant, où on se dit qu'on aurait aimé participer à ce genre d'événement beaucoup plus suivi maintenant que ça l'était par le passé. Mais je suis très très contente pour ma pratique et pour les filles que je connais qui pratiquent et qui pratiqueront dans le futur. C'est très très intéressant.
Vous étiez une éclaireuse, hein, vous aviez défriché le terrain avant elle. Quel est votre plus bel échec à vous, Sandrine Dussan ?
Mon plus bel échec, je pense que c'est les défaites que j'ai connues en Ligue des Champions, notamment avec l'Olympique Lyonnais, parce que finalement, sur le moment, oui, c'est considéré comme des échecs, bien sûr, mais avec du recul, c'est sans doute ce qui nous a permis de finalement remporter la première Ligue des Champions, donc pour moi, c'était des beaux échecs, finalement.
Ouais. Et c'est les meilleurs souvenirs, quand même pas ?
Quand même pas. Les meilleurs souvenirs, je pense que ça reste les victoires, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui sert, les échecs, c'est des choses qui servent justement à mieux se construire, à se surpasser, à être encore meilleur pour arriver justement au Graal et à la victoire.
On est en train de mesurer depuis le début de cette émission que le vent tourne en matière d'échecs. Est-ce que vous êtes d'accord, Sandrine Dussan, avec ça, pour dire que la France assume enfin ses relations compliquées avec l'échec sportif notamment, mais pas seulement.
Oui, je pense. Je pense que sur pas mal de sujets, aujourd'hui, les gens sont un peu plus ouverts à l'échec, entre guillemets, et que ça devient presque une source de motivation, finalement, pour devenir meilleur, pour s'améliorer, pour se perfectionner, pour apprendre, et puis justement, pour être meilleur et faire en sorte d'avoir des résultats plus intéressants et plutôt positifs.
Merci beaucoup, Sandrine Dussan, ancienne défenseuse de l'équipe de France de football. Très belle journée à vous.
Merci à vous également.
Et à bientôt. Je me tourne vers la basketteuse Yannick Souvré. Ce mondial de foot, vous l'avez suivi aussi, j'imagine ?
Oui, bien sûr, oui, parce que le sport féminin français est très solidaire. Et que ça soit Brigitte Henriques, la vice-présidente, ou Frédéric Jossinet, l'ancienne judokate qui s'occupe du plan de féminisation de la Fédération française de foot, elles nous ont pas oublié les autres sports moins médiatisés, parce que maintenant, quand le foot prend l'essor, ça dévaste tout sur le passage, que ça soit le basket, le volley, le handball et le rugby féminin. féminin qui marche bien aussi.
Un t-shirt étonnant dans ce studio, on n'en a pas encore parlé, c'est Antoine, le créateur de la Fédération Française de la Loose, qui porte un t-shirt sur lequel on le voit, la Patrouille de France, je crois.
La Patrouille de France avec une bande rouge de trop.
Voilà, c'est ça. C'était l'été dernier, hein, 14 juillet 2018. Et... la Patrouille de France s'élance et puis les fumées sont pas dans le bon ordre. Hein. Ça a fait rouge, bleu, blanc, rouge.
Voilà.
Pour vous, c'était un festival.
Bah, c'était, on est sur les champs, quoi. On est. C'était juste après d'ailleurs, ou juste avant même les autres champs, mais. Non, ouais, ça nous a fait marrer parce qu'en plus, il y a eu pendant 2-3 heures, c'était un signe, c'était un pour des personnes qui sont décédées sur le terrain, mais pas du tout en fait. Et à la limite, la Patrouille de France a eu le courage de dire, bah, on s'est foiré.
Même la Patrouille de France.
Même la Patrouille de France. Si même une personne qui pilote un avion, enfin, c'est peut-être plus d'ailleurs la personne qui a mis la fumée, mais. Est capable de se planter, bah, tout le monde peut le faire.
D'ailleurs, la Fédération Française de la Loose, qui officie, on le rappelle, sur les réseaux sociaux, ne s'intéresse pas seulement au sport.
On pourrait largement dériver dans la vie publique, hein, surtout en ce moment. Non, la Loose, elle est pas que dans le monde du sport, elle est dans le monde du travail, elle est dans le monde politique, elle est dans le monde parfois de la musique, elle est dans énormément de domaines.
Alors, il est de bon ton, justement, dans le monde de l'entreprise, de dire qu'on a quelques difficultés en France avec l'échec Albert Moukébert. Vous qui voyagez pas mal, je crois, est-ce que vous faites une différence entre les États-Unis, par exemple, et la France en matière de culture de l'échec?
Oui, il y a plein de différences culturelles. Encore une fois, c'est pas seulement dans notre relation à l'échec, c'est même d'un point de vue quasiment académique sur la recherche de qu'est-ce que c'est l'échec, comment est-ce que ça fonctionne, etc. La France a pris pas mal de retard sur ce sujet, alors que les Américains, par exemple, la citation de Beckett, c'est un peu leur... En anglais, ils ont beaucoup ça, fail, fail more, fail better. C'est vraiment ancré un peu chez eux. Mais les Américains, c'est un peu paradoxal, parce que d'un côté, ils sont décomplexés vis-à-vis de l'échec, et d'un autre côté, c'est interdit. Par exemple, on a entendu au téléphone, l'objectif pour l'équipe de France, c'était la demi-finale. Mm-hmm. C'est un truc qui ne se passerait jamais aux États-Unis, c'est où on gagne ou rien. Mais quand ils perdent, ils savent apprendre de ça.
Alors, il faut préciser que Corinne Diacre disait plutôt que l'objectif, c'était la finale. Hein. Je parle sur votre contrôle, Yannick Souvré.
Mais effectivement... pas mon contrôle à moi du tout.
C'est juste pour illustrer l'exemple.
C'est intéressant, effectivement, cette idée d'avoir un objectif qui n'est pas la victoire totale.
Oui, même quand elle est irréaliste, ils disent « on va tout gagner ». Et quand ils perdent, c'est pas grave. Alors qu'en France, on peut être plus réaliste, mais quand il n'y a pas la performance derrière, c'est vécu comme un drame. Mais c'est en train de changer, effectivement, notamment en entreprise, où on essaye de faire des fail camps.
Donc des conférences de l'échec.
Mais il faut aussi faire attention de ne pas tomber dans une forme de romancisation de l'échec, où on cherche à échouer. Je reprends ce que vous étiez en train de dire, c'est pas agréable. Et il ne faut pas non plus en faire quelque chose de génial. Des fois, on perd ou on échoue. Et c'est un peu la merde, et c'est pas cool, et on n'apprend rien. Et c'est pas grave, c'est-à-dire il faut aussi dédramatiser, parce que l'échec aujourd'hui, notamment en entreprise, donc c'est un peu différent que le sport, mais je travaille aussi pas mal avec des entreprises, il faut se méfier de cette nouvelle vague, un peu de sorte de dictature du bonheur. Il faut tout le temps positiver, être dans le bien-être, j'échoue et c'est super, je suis déprimé mais c'est génial. Non, à un moment...
C'est une nouvelle injonction.
C'est une nouvelle injonction de « ah, tu perds, c'est super », non.
Votre cerveau vous joue des tours, c'est le titre de votre livre, Albert Moukébert, et j'ai remarqué assez tard que le mot cerveau sur la couverture du livre est à l'envers. Oui. J'avais pas remarqué, c'est normal?
Oui, ben c'est un peu pour ça qu'on l'a mis à l'envers. C'est que le but du livre, c'est aussi d'expliquer un peu comment notre cerveau réorganise la réalité.
Donc la perception n'est pas fiable.
Exactement, et c'est un peu la même chose avec l'échec. C'est-à-dire, quand on échoue, deux joueurs d'une même équipe peuvent avoir le même échec et le vivre complètement différemment. Ça, c'est un peu chacun leur cerveau, comme qu'est-ce qu'ils se racontent comme histoire, ces récits avec lesquels on se structure. Qu'est-ce qu'on se dit et comment est-ce qu'on intègre cela? Est-ce qu'on l'intègre en se disant on a quand même fait 4 médailles d'argent consécutives, ou est-ce qu'on se dit on est nul, ou est-ce que, et tout ça, ça impacte énormément. Est-ce que on perd en 99 pour mieux gagner en 2001, je pense.
Oui, c'est ça.
Toutes ces choses qu'on se raconte sont très très structurantes de comment est-ce qu'on aborde ces notions de résilience, de rebond, d'échec, de bonheur, etc.
Yannick Souvré, ancienne basketteuse, vous êtes aujourd'hui, je le disais, directrice de la Ligue nationale de basket. Donc vous
de volley.
Lapsus, changement de ballon. Vous évoluez dans l'entreprise. Est-ce que votre mental de sportive est intéressant, peut apporter des choses à vos collègues de travail pour affronter l'échec en entreprise?
Oui, de toute façon, moi je suis persuadée que les capacités, les compétences qu'on développe en étant un sportif de haut niveau, et je fais un clin d'œil à mon amie Véronique Barré qui a écrit un livre là-dessus, les compétences du sportif, elles permettent effectivement de servir l'entreprise. Mm-hmm. Ce qu'on développe, le côté battant, la résilience, le fait de jamais lâcher, c'est un gros plus pour effectivement être un leader dans le management. Après, je ne sais pas si je suis toujours positive et toujours un bon exemple, mais c'est vrai que j'essaye malgré tout de le faire. Je crois qu'il y a une chose qui est importante, c'est la culture de la victoire. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on essaye de développer. Ça s'apprend de gagner. Et apprendre à gagner, c'est avoir déjà d'un commencé par apprendre à perdre pour pouvoir gagner, et ça s'entretient. Ça, c'est une première chose. Et après, je vous en avais vaguement parlé tout à l'heure, et je voudrais juste faire un petit clin d'œil à ça. Les médias mettent une pression phénoménale. Ouais. C'est-à-dire que ce qui est devenu assez nouveau, et vous en avez parlé tout à l'heure, par rapport aux États-Unis, on ne parle que du premier. On oublie les autres. En France, on aime bien le deuxième, c'est vrai.
On mais aime bien côté, Poulidor.
Ah oui, c'est vrai. Et bon, c'est nous, hein. Ouais. Il faut s'assumer en tant que Français avec les bons et les mauvais côtés. Mais le média, là où il est difficile, c'est que si demain l'équipe de France féminine de foot avait annoncé qu'elle voulait juste gagner le quart de finale, on aurait dit ah là là, elles n'ont pas d'ambition. Voilà. Elles annoncent, Corinne Diacre a peut-être annoncé, maintenant on veut être sur la plus haute, parce que de toute façon, quand on commence une compétition comme ça, on veut aller au bout. Après, est-ce que c'est réaliste ou pas, c'est une autre chose. Mais si vous jouez un match et vous pensez que vous allez perdre, de toute façon, je vous le dis, vous allez perdre.
Vous savez quoi, la conclusion, c'est qu'il faudrait arrêter de poser cette question, non ? Quelles sont vos ambitions sur cette compétition ?
Ou accepter d'un que, effectivement, l'ambition peut être que limitée parce qu'on connaît aussi ses capacités, c'est vrai. D'un autre côté, pas massacrer le sportif quand il annonce, alors bon, je fais un clin d'œil à mon ami Antoine, mais un tennisman qui va jouer Roland Garros, s'il dit, ah, de toute façon, moi, je veux juste passer le premier tour, on va le regarder comme là, un loser. Alors, voilà. Alors, par contre, quand il perd, là, on dit il est loser aussi. Alors, c'est un peu compliqué.
On est des vautours, nous, après.
Des vautours, des rapaces.
Tenez un message d'auditeur qui nous parvient sur Twitter. J'ai raté beaucoup moins de revers que Federer, mais du coup, j'ai moins progressé que lui, nous écrit cet auditeur. Intéressant.
Mais c'était la citation de Michael Jordan aussi, qui listait le nombre de shoots qu'il avait raté, le nombre d'échecs qu'il a eu pour dire c'est grâce à ça que j'en suis arrivé. Mais on faisait le comparatif aussi avec le monde dans l'entreprise, et pour moi il y a des parallèles avec le monde du sport pour en avoir vécu, hein, des projets ratés ou des compétitions ratées. Une des grosses problématiques, c'est pas tant de perdre, c'est de voir comment on réagit à ça. Et plein de fois, surtout dans le monde dans l'entreprise, que j'ai plus connu que le monde du sport, c'est on recherche un fusible, c'est de la faute de qui ? Enfin, je sais pas si on voit toujours, même dans le sport, ou quand on a eu la fameuse remontada, c'était bon, c'est de la faute de l'entraîneur, du joueur, mais comme si la faute elle pouvait pas être collective, partagée. Et parfois même pas sur le terrain. Mais c'est toujours, on a besoin de la recherche d'un fusible, qui est souvent dans le sport et dans l'entraîneur, ou dans le monde de l'entreprise, un pauvre, voilà, qui fait qu'en fait, on n'a pas trop de réflexion par rapport à ça. Mais d'ailleurs, on n'a pas non plus de réflexion par rapport aux victoires. C'est-à-dire que quand on a gagné, on a raison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour d'expérience, même encore une fois, dans les deux cas. Ouais. C'est-à-dire que parfois, il y a même une certaine arrogance par rapport à la victoire. Si on prend France 98 et France 2002, en final, on s'est dit, on arrive en 2002, on est les meilleurs, on n'a pas eu à revenir. Et au final, on s'est viandé, je pense, à titre personnel, par un gros manque d'humilité et de remise en question.
Savez-vous qu'il existe une journée de l'échec en Finlande, nous écrit Philippe sur Twitter. Très bonne idée pour apprendre à dédramatiser et inciter à prendre des initiatives, pense cet auditeur. Est-ce que vous pensez en effet, Albert Mokeberg, que c'est la peur de l'échec qui nous empêche de faire des choses, qui nous empêche d'innover le plus souvent ?
En fait, c'est souvent l'anticipation. C'est-à-dire, par exemple, on voit que les personnes les plus résilientes, on parlait tout à l'heure des personnes résilientes qui apprennent, mais il y a les personnes qui sont résilientes un peu naturellement, c'est souvent les personnes qui ont été exposées à l'échec plus tôt. Par exemple, les premiers de classe à l'école, les personnes qui sont premiers de classe jusqu'au bac, souvent, s'ils commencent à avoir des difficultés à la fac ou dans le monde de l'entreprise, sont beaucoup moins résilients que l'étudiant qui était à 12, 13, 8, 7, qui passe à peine, parce que lui, il a vu par la réalité, par un retour de la réalité, qu'il a échoué quelques examens, il s'est rien passé de grave. Il a survécu. Alors que la personne qui réussit tout le temps a tellement peur de ce qui va se passer s'il échoue, que des fois elle est paralysée. On voit de plus en plus de jeunes, par exemple, qui ont ce qu'on appelle des paralysies scolaires. C'est des personnes où les parents, pendant longtemps, disaient « tu es le meilleur, tu es intelligent, tu es génial, tu es génial ». Quand ils regardent un exercice et qu'ils ne savent pas le faire directement, ils ont tellement peur de perdre cette notion de « je suis génial », qu'ils sont paralysés, ils préfèrent ne rien faire. Donc c'est plus l'anticipation de la conséquence de l'échec que l'échec en lui-même. Les histoires qu'on se raconte en se disant « si je perds, c'est que je suis nul, c'est que je suis médiocre, c'est que je suis pas bon ». Alors que les gens qui ont déjà perdu, qui ont déjà échoué, ils ont vu qu'au final, on survit.
On se souvient tous de ce premier de la classe qui était insupportable parce qu'il sortait en disant j'ai tout raté, Yannick Souvré.
Ah oui, oui, moi c'était pas mon cas. C'est peut-être pour ça que j'avais de la résilience plus tard, ça fera un grand clin d'œil à mes parents.
Moi aussi.
C'est clair. Mais oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Et puis, je crois qu'il y a une chose aussi importante dans l'échec, c'est le jugement des autres. Mm-hmm. Et ceux peut-être aussi qui arrivent à mieux le digérer, c'est ceux aussi qui sont pas trop impactés par la société, les médias, bon, j'en ai parlé, mais également l'entourage, voilà, qui sont t'as perdu mon fils ou ma fille, c'est pas grave, il faut te battre, tu vas y arriver. L'encouragement, je crois que c'est aussi important pour, dans le monde du sport et dans le monde tout court.
Et d'encourager surtout l'effort, parce qu'il y a ce truc qui tue, tu aurais pu mieux faire. Ouais. Genre non, si j'aurais pu mieux faire, je l'aurais fait.
Ça c'est vrai.
Il y a les formes d'encouragement qui sont aussi certaines formes d'encouragement. Et c'est là où la résilience s'apprend.
Enfin, tu aurais pu mieux faire. C'est pas aussi une façon de forger un mental? Parce que oui, peut-être que tu aurais pu.
Oui, mais si je l'ai pas fait, c'est que j'aurais pas vraiment pu. C'est comme si on renvoie la personne à une forme d'impuissance. Au lieu de, encore une fois, mettre le paquet sur l'effort, sur qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, débriefer les victoires, pas seulement les échecs, etc. Au lieu de cette phrase, moi je me rappelle, mes carnets d'école sont tous peut mieux faire.
Oui,
comme si je le faisais exprès.
On a aussi beaucoup d'exemples de choses ratées qui sont devenues des merveilles. Et là, la cuisine est un excellent domaine. La tarte tatin, par exemple, tarte renversée par terre, qui a donné l'idée aux sœurs Tatin de faire cuire la tarte à l'envers. Le kouign-amann aussi, renseignement pris, est du pain raté auquel on a rajouté du beurre, beaucoup de beurre. Hein.
Bien fait. Et
du sucre. De belles choses naissent de l'échec, Albert Moukébert.
La médecine, Pasteur. La pénicilline, les fondements de la médecine se sont faits par erreur. Une grande partie de la science se fait en se trompant. Hein. Le pacemaker... la télécommande, plein de choses.
La Fédération française de la loose pourrait en faire un inventaire exhaustif, Antoine ?
Bon, après là, il faudrait quand même commencer à creuser, ne pas suivre uniquement l'actualité.
ça leur changerait un peu. Bon, en tout cas, l'échec est dans l'air du temps. Voici plusieurs indices qui semblent indiquer un podcast proposé par France Culture, intitulé Super Fail, podcast passionnant dans lequel Guillaume Erner se penche sur l'échec avec malice et beaucoup de sérieux. Une série documentaire sur Netflix, j'en parlais tout à l'heure, mais aussi une série d'articles dans le Figaro Magazine, Le plus bel échec, série d'été proposée par le journaliste Quentin Périnel qui est au bout du fil. Bonjour Quentin Périnel.
Et bonjour Dorothée, bonjour à tous.
Alors vous êtes allé à la rencontre de grands patrons, d'écrivains, de sportifs de haut niveau qui nous racontent le plus grand raté de leur carrière. Le premier épisode c'est avec Maurice Lévy, le président du conseil de surveillance de Publicis. Quel loupé vous a-t-il raconté ?
Alors, on n'a pas eu besoin de retourner au début du publicitaire, mais simplement quelques années en arrière, en fait, en 2013, au moment où il a voulu procéder à une fusion d'ego entre le numéro 2 et le numéro 3 de la publicité pour, du coup, faire le numéro 1. Mm-hmm. Et donc, tout s'est bien passé, il y a eu un accord de signer, etc. On s'est tapé dans le dos. Et puis, finalement, en fait, quelques semaines seulement après l'accord, normalement, un accord par définition, ben, on ne revient pas dessus. Mais il a commencé par-ci par-là à avoir des signes qui trompaient pas. En gros, la confiance était plus vraiment là. Il y avait des petits coups pas forcément très sains du côté des Américains, notamment, mais ensuite du côté des Français. En fait, tout ça a généré beaucoup d'émotions, beaucoup d'affects. Et finalement, Maurice Lévy a incarné cet échec, finalement, pour le plus grand bien. Enfin, c'est ce qu'il m'explique dans le Figaro, pour le plus grand bien de Publicis, parce que si ce mariage avait perduré, ça aurait amené, selon lui, des catastrophes économiques qui auraient pu tout bonnement tuer Publicis.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il considère que cet échec est personnel, alors que si ça avait été une réussite, ça aurait été collectif.
Ben oui, parce que un succès, par définition, enfin, dans la plupart des cas, un succès, ça se partage avec ses équipes. On dit, ben merci à un tel, etc. Un succès, c'est un résultat d'équipe. Il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé pour ça, donc on se réjouit à plusieurs. En revanche, un échec, souvent, il n'y a qu'une seule personne qui endosse cet échec. Il faut mettre un visage sur l'échec. C'est d'ailleurs pour ça que Maurice Lévy, justement, me raconte dans le Figaro qu'à l'époque où son échec a été annoncé, eh bien, la presse, notamment la presse française, l'avait fustigé en disant c'est l'échec de Maurice Lévy, etc. Alors que côté patron, eh ben, on considérait que c'était plutôt une forme de courage d'avoir osé arrêter un deal si prometteur.
Voilà, et dans le Figaro Magazine qui sera en kiosque demain, vendredi, un autre échec, cette fois celui d'Anne-Sophie Pic, la chef.
Eh oui, elle a essayé il y a 14 ans, et puis elle s'y est remis depuis d'ailleurs, parce qu'elle essaie de convertir cet échec en réussite. Un plat donc, qui est l'asperge chocolat, donc j'ai plus exactement tous les ingrédients.
Miam.
Mais c'est un truc qui est miam, vous dites, mais elle, ça ne lui convient pas du tout. Et en fait, c'est resté à la carte pendant 2 mois. et elle l'a retiré parce que ce plat lui ressemblait pas du tout et que c'était très très imparfait. Alors évidemment, personne lui a dit que c'était dégueulasse, hein, pour donner le gros mot ou ce genre de choses. Mais il y a eu certains petits signes infaillibles qui ont fait qu'il fallait qu'elle le retire pour le retravailler. Mais même en retravaillant, là, c'est toujours pas ça. Donc c'est un peu sa bête noire.
Le plus bel échec de, c'est à retrouver dans le Figaro Magazine tout l'été. Merci beaucoup, Quentin Périnel. J'en profite pour signaler votre livre, Les 100 expressions à éviter au bureau et ailleurs, dans lequel figure évidemment Pas de soucis et Au jour d'aujourd'hui. Merci beaucoup et bonne journée à vous.
Le débat de midi sur France Inter.
Question traditionnelle dans cette émission. Sur quel sujet avez-vous changé d'avis? Alors, je me tourne vers Albert Moukébert d'abord parce que c'est précisément l'objet de vos recherches, hein, je crois. Comment se forgent les opinions et les avis?
Effectivement.
Alors, vous avez changé d'avis?
J'ai changé d'avis sur les avis. J'essaye de plus trop. En fait, j'essaye d'avoir de moins en moins, parce que j'étudie un peu la flexibilité mentale et les capacités à changer d'avis, j'essaye d'avoir de moins en moins d'avis tranchés. Ouais. Et je profite pour citer des humoristes qui s'appellent les frères Marx. C'est les années, le début du siècle passé. Il disait, voici mes convictions, si vous les aimez pas, j'en ai d'autres.
C'est pas mal. C'est Yannick Souvray, même question.
Oh, beaucoup moins intelligente ma réponse. Non, moi j'ai changé d'avis une fois et j'étais pourtant extrêmement persuadée. Quand on est enfant, on veut faire plusieurs métiers. Donc après avoir été fée, bien sûr. Fromagère, alors que je mangeais pas de fromage, j'ai voulu faire comme ma maman. J'ai voulu être professeur d'éducation physique. Ah. Et j'étais vraiment persuadée que je ferais ça. Et puis une année dû à faire STAPS, le sport de haut niveau et le sport à l'école, il y a un gros décalage et j'ai compris que valait mieux pas.
On c'était pas non plus un reniement que de faire
basket
joueuse professionnelle. C'est un changement d'avis, oui. Effectivement. Antoine, le patron de la Fédération de la Loose, avez-vous changé d'avis?
Un des patrons.
Co-patron.
Moi, j'ai changé d'avis sur plein de choses, moi. Mais un des derniers changements d'avis que j'ai pu avoir, c'est effectivement sur la manger de la viande. J'étais un énorme carnivore avant chaque repas, puis au fur et à mesure avoir pas mal d'informations, pas mal de vidéos, ça a déjà fait changer. Mais je me disais, au niveau physiologique, j'ai besoin de viande. Et j'ai découvert du coup qu'il y avait aussi des sportifs de très haut niveau qui étaient capables d'avoir un régime quasiment sans viande ou totalement végan.
Végétarien, par exemple.
Végétarien, voire végan, il y a des sportifs de haut niveau. Et je me suis dit, bah du coup, si ces personnes-là sont capables de faire leur sport à leur niveau sans avoir de carence, a priori, c'est que c'est pas mauvais, du moins si on est bien suivi. Donc ça aussi, c'est des changements d'avis, alors qu'au final... À la base, le prisme et la culture fait que c'était indispensable.
Un grand merci à vous trois. Votre cerveau vous joue des tours. Un livre pour comprendre les dernières découvertes en neurosciences. C'est aux éditions Alary par Albert Moukébert, la Fédération française de la Loose. Ça se passe sur Internet, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Antoine Toucourt.
Merci.
Qui est venu incognito sans nom de famille. Merci à vous, Yannick Souvray. On était ravis d'avoir une grande championne de basket à cette émission sur l'échec. La Ligue nationale de volley. Oui. Une actualité?
Oui, bien sûr. Un championnat d'Europe en septembre. L'équipe de France masculine joue en France, donc il faut venir la voir. Et après, vous avez trois divisions, trois championnats que vous pourrez trouver à peu près partout, parce que le volley, c'est surtout le territoire français.
Et le débat de midi revient demain. On parlera d'alimentation. La polémique des tomates bio cultivées sous serre chauffée a fait surgir beaucoup de questions. Les produits non bio peuvent parfois sembler plus écolos que le bio. Alors le bio doit-il être une religion? Vous pouvez d'ores et déjà nous écrire pour réagir.